Le thème de ce soir, c'est la mortification involontaire et volontaire. Donc, deux parties pour un même thème, qui est quelque chose qui semble contraire à notre nature humaine et à la volonté divine, qui est l'échec, en quelque sorte, de la santé, de l'échec de l'épanouissement, l'échec de ce qui devrait bien se passer. Et mortification, c'est faire la mort, c'est mortifier, tuer. Et une des premières mortifications, en quelque sorte, pour définir le terme avant de savoir ce que c'est qu'une mortification involontaire humaine et une mortification volontaire de la part des hommes, eh bien, c'est de savoir qu'est-ce que la mort au sens large, pas la mort humaine, mais le caractère imparfait des créatures. En introduction, il faut savoir reconnaître une évidence à laquelle nous ne pensons pas assez, mais qui sont des vérités, qui sont un peu philosophiques d'ailleurs, pas seulement dans la révélation, c'est le fait de que Dieu ait créé des choses finies, qui s'abîment. Comment ça se fait? Voyez-vous, quand il a créé la matière, je ne sais pas si vous savez, mais l'or est un élément extrêmement difficile à trouver, non seulement à trouver, mais même dans l'univers, il y a très peu d'or. Il faut une explosion d'étoiles pour créer de l'or, hein, pour que des éléments aillent jusqu'aux atomes d'or. Je crois que c'est plus le noyau de l'or, c'est 79 ou 80 protons. Hein, au point de vue des éléments, c'est une matière extrêmement lourde, mais qui est dans un état de stabilité incroyable. Et donc, Dieu aurait pu, si je commence par le commencement, et si j'écarte les anges, pour l'instant, il aurait pu... Donc, quand il a créé la lumière, c'est-à-dire les masses de matière qui frottent les unes, qui illuminent, qui sont dans un frottement. Si vous avez une vision concordiste de la Bible, le premier jour est forcément pas de 24 heures, ce sont des temps, hein, ce sont des périodes de création. Le premier jour, Dieu crée la lumière, et donc crée la matière. La matière étant toujours en frottement, en explosion, donc Dieu crée de la matière. C'est la raison pour laquelle la théorie du Big Bang n'est pas contraire à la Bible directement dans son cœur de théorie. Et donc, Dieu, quand il crée cette quantité de matière énorme, très dense et qui explose, qui évolue, toutes ces étoiles, tout ce cosmos, voyez-vous, c'est impressionnant. Mais d'ores et déjà, lorsqu'il crée la matière, il crée des choses qui meurent et qui vivent. C'est des choses qui meurent et qui vivent parce qu'elles se cassent, elles se divisent, elles se réagencent. Vous voyez ? Donc quand l'être humain essaye de voir quels sont les atomes stables, c'est la table de Mendeleïev, et il y a 108 ou 110 atomes stables, hein, parce que de nos jours on considère des atomes mais qui ont je crois qu'ils ont un millionième de seconde d'existence. Alors mais on a pu avec des cercles atomiques ils sont projetés, ça s'appelle comment ? C'est des accélérateurs de particules. On a pu voir qu'il y a des éléments qui, avant de mourir, avant d'être se diviser, avant d'exploser, voyez, en divers éléments. Voyez. Vous avez l'hydrogène et l'oxygène qui se font de l'eau avec telle réaction chimique. Là, c'est plutôt une composition. Mais vous pouvez séparer l'eau, séparer l'oxygène de l'hydrogène, H2O, le séparer à partir de l'eau. Et donc les poissons, ils sont bien contents de pouvoir faire ça avec leurs branchies. Mais ils tuent l'eau. Crac, ils prennent de l'oxygène. Bon. Et donc Dieu a forcément créé des choses limitées. Lui est parfait. Donc cette finitude, cette petite mort des éléments et de la matière, les philosophes l'ont considéré. Vous voyez, les sages, ils réfléchissent et disent, tiens, cette matière qui se forme, qui explose, qui se divise. Atome, c'est ce qui ne se coupe plus en grec. Je ne connais pas le verbe grec tom, to, tem, temno, et a, c'est privatif, comme en latin. Donc, ce qui ne se divise plus. Vous voyez, la plus petite particule. Et donc, maintenant, nous allons arriver aux bactéries, nous allons arriver aux vivants, allons vite aux fleurs. Voilà. Et les fleurs, c'est une graine meurt. Hein. Une graine s'abîme pour pousser. C'est curieux. Et Dieu a fait aussi des insectes qui font une chrysalide et qui se transforment. Leur premier aspect est tout à fait homogène. Elles tissent toute une coque autour d'elles. C'est un nom particulier, c'est un cocon. Voilà. Et puis elles sortent de ce cocon avec des ailes. Alors là, pour le coup, c'est une belle transformation, c'est une transformation vers un état plus parfait. Et pourtant, à un moment donné, cette libellule meurt. Ces éphémères meurent. Cette fleur fane. Oui. Alors, si on en arrive au corps humain, qui est un corps animal, eh bien, les dons préternaturels, qui font partie du catéchisme premier, sont à noter. C'est un enseignement de l'Église, mais qui est lié à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Donc il est très difficile de faire l'impasse sur cette réalité. Quand Dieu a décidé de créer la nature humaine, il l'a prise du monde animal, du monde atomique, du monde végétal, du monde animal. Nous sommes des belles plantes, hein, nous poussons, mais comme les animaux, nous allons vers notre nourriture. C'est pas la nourriture qui va vers nous comme pour les plantes, sauf je vous concède quelques plantes qui carnivores ou qui aiment bien, qui vont chercher le soleil, tout ça, bon, très bien. Mais si vous voulez, l'animal, lui, va vers ce dont il a besoin. Et voilà qu'il nous donne l'intelligence et la volonté. Or, l'intelligence et la volonté, c'est une capacité qui est au-dessus de la matière. Mais même cette capacité au-dessus de la matière, si vous réfléchissez bien, et c'est la raison pour laquelle les animaux qui ont des yeux, qui ont de la mémoire, nous font penser qu'ils sont intelligents et volontaires. Mais en fait, comme le dit aussi la philosophie, il y a une âme dans les bactéries, il y a une âme dans les plantes, il y a une âme dans les insectes, il y a une âme dans les animaux, il y a un principe de mouvement immatériel. La matière ne bouge pas toute seule sans un principe de mouvement. Vous avez une sauterelle morte, elle a tous les éléments de la sauterelle, sauf qu'elle est morte, elle ne bougera plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette sauterelle? Ce n'est pas parce que les atomes ne se sont pas mis en rouage mécanique, comme aurait dit Descartes, les animaux machines. Non, non. Ils ont une âme, voyez. D'ailleurs, je pense que Descartes n'écartait pas totalement l'âme animale. Hein. On caricature parfois ce qu'il a dit. Mais voyez-vous, moi je pose la question à mon professeur de philosophie, je lui dis, mais alors, les brins d'herbe, quand ils se dessèchent et qu'ils meurent, il y a l'âme du brin d'herbe qui s'en va au paradis des brins d'herbe. Et là, mon professeur de philosophie de me dire, on ne sait pas. Les âmes des insectes, des animaux, des chats, des chiens, des plantes, des bactéries, imaginez tous les planctons. Non, ça fait des cimetières incroyables ou un paradis pour les planctons, pour les bactéries, pour les microbes, enfin, voilà. Eh bien, tout cela, voyez-vous, on ne peut pas prouver philosophiquement que ces âmes ne soient pas immortelles. On ne peut pas prouver que l'âme d'un chat, que l'âme d'un chien, mais aussi que l'âme d'une sauterelle, c'est moins poétique, ou d'une mouche, ne survit pas à la décomposition et à l'assemblage de ses atomes, qui permet plus de supporter son âme. Alors, le bon Dieu peut ressusciter un être que vous avez aimé, un chat, un chien, dans la vie éternelle, mais en soi, le principe de mouvement, l'anima de votre chat ou de votre chien, vous ne pouvez pas parler à votre chien ou votre chat après sa mort. Elle est réduite à la puissance de la matière, elle est anéantie. Toutes les âmes des roses, toutes les âmes des platanes, quand le platane meurt ou il est brûlé, eh bien, il y a un principe incroyable dans un platane, ou dans un chêne, ou dans un laurier. Parce que je peux vous assurer que de pomper l'eau, que de prendre des oligo-éléments des minéraux dans le sol, les agencer, pousser, se rétracter, avoir des feuilles, avoir des fleurs, c'est une vraie vie. Ça ne se fait pas comme, je ne sais pas, comme un domino, ça ne se fait pas comme un mécano. Dieu donne une vraie vie aux plantes, mais elles ne pensent pas. Dieu donne une vraie vie aux hirondelles et aux chats, mais ils n'ont pas l'intelligence, l'abstraction, ils n'ont pas la compréhension, au point même qu'ils n'ont pas d'amour pour leurs parents. Ils n'ont pas d'amour pour leurs grands-parents. Vous avez jamais vu un chat, au bout de quelque temps, quand le chat vient d'être sevré, il cherche sa maman un peu quand même, tout ça, enfin celle qui lui a appris à être propre, tout ça. Vous avez des principes d'éducation pour les animaux qui sont très particuliers. Quand vous connaissez, les gens qui connaissent très bien les animaux vont vous dire, les petits d'un chat, il vaut mieux qu'ils aient vécu avec leur mère un certain temps. Ils apprennent certaines choses avec leur mère. Mais après, voyez-vous, le chat, il va pas être là et dire, oh, ma maman me manque. Et, or, nous, non seulement nos parents peuvent nous manquer, quand bien même ils auraient été méchants, quand bien même on ne les aurait jamais connus, mais aussi nous connaissons les grands-parents. Et c'est une découverte. Des grands-parents peuvent être morts, tous les quatre morts, d'autres sont vivants. Et il y a une véritable découverte de la personne plus âgée que son père et sa mère. Vous avez des grands-parents qui sont jeunes. Vous avez des grands-parents qui ont 55 ans. Vous avez des grands-parents qui ont 80 ans. Mais ça fait partie vraiment. Et puis, nous avons cette capacité de comprendre et d'aimer. Mais alors, pourquoi le bon Dieu nous a mis dans un corps animal? Parce que je peux vous assurer que le bon Dieu n'a pas créé les animaux immortels. Alors, c'est un conflit que j'ai avec certains, mais non, les lions n'étaient pas herbivores. Hein. Vous avez des tigres qui ont des dents, je sais plus, les tigres préhistoriques, là. Oh, les dents de sable, à dents de sable, je vous assurais que c'était pas pour manger de l'herbe, hein. Ou pour moissonner éventuellement le blé. Et se faire du pain. Voyez. Il y a, si vous voulez, le Dieu a vraiment fait une création autonome. avec des éphémères qui nourrissent certains oiseaux. Les oiseaux n'étaient pas censés uniquement manger des graines. Et encore, si vous voulez, si on va très loin dans ce raisonnement que tout doit être stable et tout doit perdurer, donc aucune fleur ne fane, à un moment donné, les graines ne poussent plus non plus. Les nouvelles graines n'ont plus à mourir. Il ne faut pas qu'une graine meure. Enfin, voyez-vous, Dieu a voulu cette caducité de la matière et du vivant. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est un obstacle à philosophique et théologique et spirituel pour nous. Qu'on soit très intelligent ou très pratique ou pas très, comment dire, pratique ou pas très spéculatif, tout être humain se pose la question quand même de savoir pourquoi. Pourquoi l'Église catholique, pourquoi la révélation biblique vous dit que Adam et Ève ont été créés avec quatre dons préternaturels. Le premier d'entre eux, c'est la science infuse. C'est-à-dire que Adam et Ève avaient une science qu'ils n'ont pas acquise de leurs parents, parce qu'ils ont été créés avec une âme immortelle, un esprit comme les anges, ex nihilo. C'est-à-dire que si leurs parents étaient des singes, des mammifères d'une telle espèce, avec pouces opposés, eh bien, leur père et leur mère n'ont rien compris de les voir à l'état adulte, tout d'un coup, Adam avoir une âme immortelle, avoir un esprit et parler. Donc vous avez deux théories, où Adam a été un petit d'un mammifère et arrivé à l'âge adulte, Dieu lui a donné un esprit. Il a été totalement différent par rapport à ses ancêtres. Où Dieu a créé Adam directement, comme une espèce nouvelle, par un acte créateur direct. Alors l'évolutionnisme n'est accepté par l'enseignement biblique et l'Église catholique que si on admet que Dieu conduit les transformations des espèces, de la bactérie au poisson, au reptile, à l'oiseau, au mammifère. Mais c'est une intelligence extérieure et pas le hasard et le temps. Et en ce qui concerne la nature humaine, donc, c'est un esprit infusé dans un corps. Et il faut qu'il ait des connaissances propres à l'intelligence, à sa première intent d'existence. Il aurait mangé n'importe quoi comme un enfant. Vous voyez? Il avait une science infuse. Ève avait une science infuse. Et si vous voulez, c'est un enseignement dogmatique, hein, donc c'est pas le premier dogme, hein, mais c'est un enseignement. Un des signes dans la Bible, c'est lorsque Adam nomme les choses. Hein, les animaux ne nomment pas rien du tout, hein, ils vivent dans l'instinct. Adam, lui, donne des noms. Il a la notion d'abstraction, il a la notion d'être particulier. Un arbre, un lion, un rhinocéros, un hippopotame, qu'est-ce qu'il y avait dans la plaine du Tigre et de l'Euphrate? Science infuse. Immortalité, c'est-à-dire que le corps de Adam et Ève et de leurs enfants aurait atteint leur maturité et à un moment donné, au lieu d'une dégénérescence, pas de dégénérescence. Les atomes, les cellules se remplaçant. Comme lorsque vous avez 15-18 ans. À 15-18 ans, vous êtes quasi immortel. Alors, bien sûr, vous avez des professeurs de médecine qui vont dire, mais non, il y a déjà des puissances de mort, des puissances de destruction, de décomposition à tel endroit, il y a des dégénérescences. Alors, mais vous allez quand même me concéder à un moment donné, quand même, que dans notre croissance, on n'est que pour la vie. Ah oui, mais non, vous avez des cellules qui meurent, justement, pour laisser la place à d'autres cellules vivantes plus nombreuses. Ça, chiche, mais on pousse. On ne va pas vers la mort. Parce qu'à un moment donné, on décline. C'est-à-dire que les cellules ne se développent plus. Que des cellules restent et meurent, sans être remplacé. Et ça, c'est étonnant. Et, eh bien, don préternaturel, immortalité, c'est-à-dire que la peau, les cheveux, tout marche parfaitement. Et donc, dans cette tradition biblique, au risque de vous choquer, Mathusalem, malgré le péché originel et la condamnation à mort du genre humain qui dit « je peux exister sans Dieu », Lucifer m'a promis la divinité, la toute-puissance, si je me coupe de toi et si je considère que tu es un menteur. Et Dieu avait dit, si vous voulez vous-même dire ce qui est bon et mauvais, si vous prenez de l'arbre du fruit de l'arbre du bien, de la science du bien et du mal, vous mourrez. Ce n'est pas pour rire. Hein. Mais on ne serait pas mort si on n'avait pas voulu décider du bien et du mal nous-mêmes, sans le recevoir de notre Père, de sa sagesse, de sa science, de sa bonté. Ce qui fait que nous avons été condamnés à mort. Non seulement nous avons été condamnés à mort, mais nous avons perdu le troisième don préternaturel, qui est l'intégrité. C'est-à-dire que notre intelligence et notre volonté étaient dans une parfaite adéquation. On comprenait tout de ce qui devait être compris. On voulait le bien et on était suffisamment vertueux pour l'attendre et l'obtenir. C'est pour ça que le péché originel est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un péché de sensualité. Ce n'est pas du tout le premier acte conjugal d'Adam et Ève. Le péché originel, c'est l'acte magique. Si on considère que c'est le fait de prendre un fruit, pomus, c'est fruit en latin, hein, c'est la pomme, c'est le fruit par excellence. Par cet acte, je vais devenir tout puissant. Vous avez des personnes qui donnent 10 000 euros pour qu'on leur coupe la tête d'un coq, qu'on répande le sang sur un pentacle pour qu'ils trouvent du travail. Eh bien, figurez-vous que vous avez deux versions, hein, où le péché originel, c'est Lucifer qui dit à Ève, tu seras divine, désobéis à Dieu, saisis ce fruit de la science du bien et du mal, et Adam fait ce même péché spirituel, où il y avait un véritable arbre, c'est la même chose, mais c'était pour eux symbolique, de manger de ce fruit réel. Deux versions possibles, mais une seule réalité, un acte de défiance de Dieu et d'orgueil, qui nous vaut de mourir de mort. C'est-à-dire, on perd la science infuse, on ne la perd pas, parce qu'on la transmet aux enfants. L'immortalité, on la perd. L'intégrité, on la perd. Notre intelligence et notre volonté sont perturbées. Et c'est ce qu'on appelle le fomes peccati, hein, le foyer de péché, les conséquences du péché originel. Et nous perdons aussi l'impassibilité, c'est-à-dire que non seulement on peut mourir, mais on peut être malade. Et voilà que ces quatre dons préternaturels, science infuse, intégrité, immortalité et impassibilité, ne sont pas transmis aux enfants. Et donc, la tradition adamique a dû mettre des années et des années à être transmise. On dit que, justement, suivant le compute biblique, si on est concordiste, les patriarches ont vécu très vieux. Pourquoi? Ils devaient transmettre cette science. Pour ne pas qu'on s'empoisonne, pour avoir une connaissance minimale du réel et de ce qui les entourait, Adam et Ève transmettent cette science. Mathusalem meurt à 969 ans, quelques années, je crois, avant le déluge. Mais tout recommence avec 8 personnes. Et... Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire sainte et le fait que l'inceste soit entre parents et enfants, mais pas entre frères et sœurs. Donc, entre frères et sœurs, on peut se marier, mais Dieu ne le permet plus à un moment donné où la population humaine est suffisante pour qu'on se marie entre cousins et éloignés. Actuellement, la loi civile, comme la loi canonique, vous permet de vous marier entre cousins germains. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il faut une dispense dans l'Église pour se marier entre cousins germains. C'est assez proche. Tout cela, c'est bien beau, mais comme je vous l'ai déjà dit, le premier meurtre, c'est de voir qu'un être humain ne résiste pas à un coup de mâchoire d'âne sur la tête. Et donc il faut que l'âne meure, se décompose, que l'os soit vif, et que Caïn prenne cette mâchoire, n'est-ce pas, et casse la tête d'Abel. Alors, imaginez Adam et Ève qui sont devant le premier mort. Mais pourquoi Dieu a-t-il voulu que nous soyons des animaux raisonnables, mais qui par nature sont vraiment exposés à la maladie et à la mort, comme les autres animaux? Les animaux ne meurent pas seulement à cause de l'âge, il y a aussi des maladies. Le sida, c'est un syndrome de déficience immunitaire qui se trouve chez les animaux. Mais le sida des chats, le sida des singes, le sida des hommes, et donc et d'autres maladies encore qu'on ne connaît pas, des maladies orphelines, des... Mais avant ce péché originel, nous n'aurions pas eu ces maladies, nous dit-on. Et c'est vrai. Mais seulement, voyez-vous, saint Thomas d'Aquin va vous dire, du fait qu'on ait une âme immortelle, du fait qu'on ait un esprit pour animer notre corps animal, on est radicalement différent des autres animaux. Et donc, il convenait, c'est une convenance qu'on soit immortel. Parce que notre âme a une telle capacité d'intelligence, de vie et de mémoire authentique, liée à l'amour, liée à la volonté, liée à la liberté, liée à la responsabilité, que nous ne sommes pas des animaux. L'homme a horreur de se manger lui-même. Vous avez le cas de cet avion qui s'était écrasé, hein, en pleine montagne. Et donc ils ont fini, comme les corps ne se décomposaient pas à cause du froid, ils ont fini par se manger. Voyez. Mais parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Mais nous ne sommes pas des êtres comme les autres. Alors vous avez les véganes qui vous disent il ne faut pas manger de poulet, il ne faut pas manger de poisson, et tout ça. C'est pas vrai. On peut manger des poissons, on peut manger des poulets, mais la preuve que dans la Genèse, non, c'est pas ça. Voilà, c'est du poison la viande et tout ça. On devrait tous être au moins végétariens ou végétaliens, si ce n'est vegan et tout. Si, si, ils ont raison. Ce sont, si, 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 au point de vue biblique, ils ont plus raison que nous pour ça et tout ça. Non, non, non. Voyez, pour le mariage, Dieu dit, c'est à cause de votre dureté de cœur que je vous ai permis la répudiation et la polygamie. Et je vous la permets plus. Mais il nous a jamais dit, bon, maintenant, végétarien. C'est non, il nous a. Il y a même eu au cœur de la religion juive des repas, des festins de viande succulente. Nous sommes carnivores. Il ne faut pas exagérer non plus. Alors on est là à savoir si on doit boire du lait, si on ne doit pas manger de la viande, à quelle proportion, à quel moment. Est-ce que lorsqu'on chauffe le lait, ça détruit les hormones de croissance? Que si on ne les détruit pas, on a des cancers et tout ça. Le cancer. J'ai discuté avec une infirmière qui m'a expliqué ce qu'était le cancer avant la chimiothérapie. Avant la découverte de la chimiothérapie et de certains produits extrêmement durs qui détruisent les cellules, les cancers, c'était des vrais cancers. C'était les cellules se multipliaient et sortaient du corps. C'est comme ça qu'on voyait que les gens avaient des cancers. Parfois, les gens mouraient d'un cancer. On voyait, si on faisait, on ouvrait le corps après, mais par pudeur, on ne le faisait pas la plupart du temps. Mais si on ouvrait le corps après, on voyait des grosseurs qu'on ne trouvait pas chez d'autres corps. On voyait des amas de cellules. Mais la plupart des cancers finissaient par sortir du corps. Quand vous avez un cancer de la gorge, vous aviez toute la peau qui devenait rouge et ganglionnaire, terrible, et vous aviez une grosseur comme ça, et vous mouriez comme ça. Et ça se décomposait à une vitesse délirante. Hein. Donc on enterrait vite. Hein. Vous aviez un cancer du sein, vous aviez votre sein qui était mangé par des cellules folles rougeâtre qui sortait, qui purulente, enfin c'était des trucs terribles. Et bien maintenant qu'on a des soins extrêmement sévères et qui parfois tuent le bonhomme ou la dame, eh bien les cancers sont, se multiplient. Il y a des tumeurs qui vous tuent, mais elles sont beaucoup moins grosses qu'avant. Mais mon Dieu, pourquoi? Pourquoi, lorsqu'on tombe dans un trou, la loi de la gravité nous fait qu'on se disloque, quoi. Les os se cassent, rentrent dans un organe vital, et machin, la tête explose, enfin, je sais pas, excusez-moi. Pourquoi le bon Dieu nous a donné un corps animal?